Et non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Adichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmandas. Le gourmandas, pourquoi? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez un, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez a, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Adichats à toutes, c'est Daniel Baillet, le gourmandas, bien sûr, pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, comment ne pas parler de cette belle région en avançant vers les fêtes sans parler naturellement de l'Armagnac ou des noces de la vigne, du chêne et de l'homme? Comment parler saveur gourmande et art de vivre sans parler évidemment de l'Armagnac? Alors aujourd'hui, nous allons faire dans cette émission un peu la part de la nature, la part de l'homme et aussi ce que nous appelons la part du feu, donc qui sera l'âme de la distillation bien évidemment. Et dans une autre émission plutôt, eh bien nous évoquerons plus près de chez nous de nombreuses propriétés, de nombreuses personnes bien évidemment, et la dégustation et tous ses effets. Donc pour commencer, je vous propose de parler de la part de la nature, et comme nous le décrit le chêne et la vigne dans leur site naturel avec leurs spécificités et les connivences tant végétales qu'animales qui se sont établies autour d'eux au fil des siècles bien évidemment. Donc on aura dedans bien sûr naturellement à parler des appellations, de port, de longévité, d'organes végétatifs, de modes de reproduction, mais bien sûr très succinctement. Je ne vais pas chercher à vous éblouir avec de la technique que je ne maîtrise pas. Et cette succession de données, en tout cas, n'a d'intérêt que si l'on va l'un vers l'autre pour déceler des complémentarités, des concordances et peut-être même des oppositions parfois pour plus de tempérance. Donc la part de la nature, bien évidemment, qui est colossale dans cette culture, aussi la part de l'homme dont nous avons parlé, qui évoque la rencontre des civilisations, tout d'abord nordiques, comme on ne le sait pas toujours, méditerranéennes et arabes, bien sûr, qui vont concourir à valoriser les affinités naturelles par des savoir-faire particuliers et affixés, en vertu de certaines correspondances, ce qui est étonnant quand même, symbolisme et fonctions nouvelles. Le vigneron, forestier, tonnelier et distillateur, c'est tout ça, le producteur d'Armagnac. Et tous ces gens s'épaulent à travers un jeu croisé de mimétisme quand ils font équipe. Alors, concernant la part du feu, bien sûr, alors là, c'est la fin de l'histoire, quelque part. La part du feu, elle raconte évidemment la distillation et le long mûrissement des eaux de vie dans le silence des chais, ultime terme de la longue histoire du chêne et de la vigne. Épousaille d'exception, valorisé souvent par le maître de maison, bien évidemment. Donc, pour commencer à parler de la nature, naturellement, je vais vous donner, bien sûr, quelque chose qui est un peu mon point de vue, mais qui n'est pas seulement mon point de vue. Tous ceux qui ont traversé cette sublime région vous le diront. Ben, la nature dans le pays de l'Armagnac, c'est le pittoresque de la géographie, bien sûr, qui le lui donne. Elle rappelle fortement la Toscane et ses beaux pays coiffés en pente dégradée, naturellement, avec ses trois grandes zones. Tout d'abord, la plus prestigieuse, le bas, avec ses grands bas armagnacs, toute la ceinture des Landes, bien sûr. Puis, la Ténarèse, entre Condon et qui va jusqu'à Nérac, donc la partie plus haute de l'Armagnac, et celui que l'on appelle vraiment le Haut Armagnac, c'est-à-dire de Auch jusqu'à Lectour, jusqu'au pays presque toulousain là-bas. Alors concernant bien sûr le Bas Armagnac, né des avancées de la mer au tertiaire, qui a laissé des sédiments, des sables, ce qu'on appelle aujourd'hui les sables fauves, mais aussi des débris pyrénéens qui font son sol, et aussi un certain nombre de vases fluviales, de fonds de fleuves liés aux crues, donc sédimentaires, favorables bien sûr à la croissance de la vigne. Tout ça, ça touche essentiellement la région des Landes, le Bas Armagnac. Et puis des sables et de l'argilo-calcaire, c'est ce qu'on appelle l'Armagnac noir, bien sûr, et l'Armagnac blanc aussi, et la Ténarèse, sachant que la Ténarèse fait transition entre cet Armagnac noir, et qui est la limite donc des Bas Armagnac, et l'Armagnac blanc. Donc pour une petite leçon de botanique, si on veut, on parlera forcément d'appellation, hein, le Vitis vinifera, dont nous parlons souvent, attribut de Dionysios Bacchus, avec tous ces cépages qui figurent en nombre depuis longtemps dans l'histoire de l'eau de vie d'Armagnac. Tout d'abord, le Picpoul qu'on retrouve aujourd'hui, un Picpoul lepiné plutôt dans le sud-est de la France naturellement, mais aussi du côté du Lot, une vigne basse dont les poules attaquaient les grappes. C'est la raison pour laquelle on l'appelait Picpoul, voyez comme quoi, bon. Ensuite, bien sûr, un cépage emblématique, la Folle Blanche, qui est distillée autour de 57 degrés quand on la sort de l'alambic, mais aussi des cépages moins connus, comme l'Enrajat, le Pique-Lèvre, le Gros Plan, qu'on retrouve aussi du côté du Pays Nantais, très connu et qui est remis au goût du jour aujourd'hui. Puis un autre cépage moins connu, la Grosse Chalosse, je ne sais pas s'il est toujours exploité, bien sûr, et le Plan Madame, ce qui est quand même un peu plus élégant. Et aujourd'hui, bien, ça c'était les cépages historiques qui ont construit l'Armagnac pendant presque des siècles, on va dire. Et aujourd'hui, donc, les cépages les plus employés, les plus utilisés, c'est l'Uni Blanc, naturellement, qui c'est Grande Grappe, qui est aussi le cépage emblématique du cognac. Le Colombard, avec lequel nous faisons des vins, comme l'Uni Blanc. Et surtout le Bacco 22A, ce raisin qui produit une grosse quantité de grappes et de grains assez gélatineux, douceâtre, créé par l'instituteur de l'abbatie d'Armagnac, Bacco, Monsieur Bacco, donc pendant la crise du début du siècle dernier contre le phylloxéra, et qui est arrivé donc à se développer malgré la présence de ce petit rongeur. Donc l'Uni Blanc, le Colombard en masse, le Bacco pour les plus grandes et les plus belles eaux de vie aujourd'hui, la Clairette de Gascogne, le Plan de Grèce, comme graisseux, voyez-vous ce que je veux dire, étonnant quand même. Alors, moins connu, en tout cas dans la région, mais connu dans le Lot, par exemple, c'est le Mozac, qui donne aussi un peu, pas gélatineux, mais qui donne de très, très belles chairs. Et le Mélier Saint-François. Ça, c'est aujourd'hui ce qui est le plus utilisé, sachant que, bon, essentiellement, c'est plutôt Uni Blanc, Colombard, Bacco, et on va dire, peut-être un peu la Clairette. Donc, écoutez plutôt cette belle tirade sur la vigne en Armagnac. La vigne est un arbrisseau sarmenteux où grimpent des fruits charnus en grappes. Jolie comme définition quand même. Ceci, bien sûr, nous permet de parler de longévité, de racines pivotantes, car la vigne, bien sûr, va chercher toute sa richesse à l'intérieur et dans les profondeurs de la terre, de feuilles alternes, de fleurs hermaphrodites. Bon, des choses un peu savantes, mais nous ne nous étendrons pas de trop dessus parce que ce serait un peu trop compliqué. Donc l'Armagnac, c'est aussi, bien sûr, naturellement, à travers son élaboration et sa culture, la conduite de la culture, des associations végétales et animales, naturellement. Donc les animaux sont amateurs de raisin et ceux-ci le subliment ensuite en cuisine par leur goût et leur tendreté. Donc on peut parler de poules qui attaquent le raisin, mais aussi des oies, des canards, des dindons, des gibiers qui s'en rassasient, comme les grives d'Rennes, la grive litorne, mais aussi la grive musicienne ou la mauvie, plus courante sur nos terres, et qui, une fois gavées des beaux raisins de l'Armagnac, sont tombées encore plus délicieux, et surtout quand elles ont passé quelques jours dans les alisiers, un arbre de plus en plus rare qui poussait dans nos haies naturellement autrefois, proche de la nèfle, pour ceux qui connaissent, un petit fruit blette qui mûrit dès les premiers jours de gel. On rencontre aussi dans les rangs de vignes le lapin de Garenne, bien sûr, le lièvre d'avril, et il y a quelques années encore, on y rencontrait aussi, j'en sais quelque chose, l'ortolan magnifique, bien sûr. Tout ça, hélas, est un peu du passé. Hélas aussi, beaucoup de variétés d'insectes ont déserté nos vignes, on le sait beaucoup moins, à cause des traitements lourds et surtout nombreux. Citons, pour ne parler que, le carabe pourpre, la coccinelle, l'hémérobe, le procoste chagriné, l'écaille marpre, l'éphipigère, le morphe écrivain, pour ne citer que cela, et pour être très honnête avec vous, je n'en connais que très peu, à part la coccinelle, je ne pense avoir jamais rencontré aucun d'eux. Néanmoins, c'est une association de végétaux et d'animaux. Et évidemment, l'Armagnac, c'est aussi, tout naturellement, des histoires de famille, bien évidemment. Le vignoble, lui, s'est aussi constitué autour de l'amour de la terre et de cette culture noble de la transformation du raisin en alcool, qui reste quand même certainement la plus belle des cultures agricoles. Donc nous ferons dans une autre émission le tour de quelques chapelles discrètes. On parlera de producteurs, de familles, on parlera de terroirs, on parlera de propriétés et on parlera bien sûr de dégustation. Parce qu'en effet, à l'opposé du cognac, sans vouloir une culture quasi industrielle gérée par quelques groupes financiers, l'esprit est assez différent. Aujourd'hui, dans l'Armagnac, chaque propriété produit son Armagnac, conserve ses millésimes successifs, comme un compte d'épargne à la banque, si vous voulez, affine sans fin et ne vend que, très exclusivement, ou pour refaire la toiture, ou pour changer le tracteur, ou, et surtout, pour marier la fille. L'exploitation est rarement exclusivement tournée vers la production d'Armagnac. Après les histoires de famille viennent des évocations culinaires, bien sûr, souvenir d'un temps où on collecte des herbes et des légumes sauvages, et ça constituait la base de l'alimentation en complément de la basse-cour, des produits de la chasse et de la pêche. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Je vous propose peut-être, pour changer un peu de rythme, une coupure musicale.
On l'appelle alambic, c'est pas l'homme qui tombe à pic, qui marche à la condensation, c'est pour la médication. On l'appelle alambic, ça tient des rhizomatiques, on s'en sert pour la génétique et l'épistémologique. Depuis les Arabes ou les Grecs, on sait de quel bois il se chauffe. Il donne des trucs à boire que sec pour le moral quand il est off. Il est au cucurbite, vers ou cuivre et serpentin. Ça n'a pas de fin. Comme le divin cavalier de la suite est pas de succès comme un homme ou une femme si vous voulez. À l'intérieur des corps nous sommes tous merveilles alambiquées, voyez-vous. Nous venons d'alambic digéré, décortiqué dans ces belles entrées thermiques, une eau de vie authentique. Ce monde est alambic, la grande ville un alambic, et le cosmos alambic comme le langage est alambic. De toutes les belles variétés que la nature nous a données.
MDM. Nous voici de retour donc dans notre évocation de l'Armagnac pour parler à nouveau bien sûr de l'homme parce que il est toujours omniprésent. L'Armagnac, c'est la rencontre entre des civilisations mais aussi entre l'homme et la nature, ne l'oublions pas. Donc on va reparler naturellement donc de l'homme de cette période critique depuis les années 60, où l'homme qui s'est activé très tôt en Gascogne, et comme s'il avait perdu confiance en la tradition séculaire de l'eau de vie, ben il s'est orienté vers une polyculture mécanisée au détriment de la vigne et du chêne. Il faut pénétrer profondément dans la zone d'appellation pour découvrir encore la suprématie du vignoble typiquement armagnacais après Condom, vers Éoze et aux confins du département des Landes et du Gers vers les grands bas armagnacs. Ici se trouve une contrée nommée dans les pays Armagnac noir et qui a longtemps mérité cette sombre qualification. De grands bois peuplés de chênes contemporains, des druides, des espaces considérables couverts de bruyères et de genêts épineux, des marécages obstrués de roseaux et de broussailles. Oui, oui, des chemins creux, impraticables aux chevaux l'hiver. Couronnant ces espaces, les plateaux sont pour la plupart plantés de vignes et les landes restantes ne sont plus que rarement parcourues par les moutons à la laine brune dont les autochtones tiraient, dit-on, le fameux béret noir qu'ils portent avec fierté, vissé sur leur tête. Par opposition à l'armagnac noir, se distingue l'armagnac blanc, appellation faisant référence à la lumière si particulière qui fait quelquefois comparer cette contrée, je le disais tout à l'heure, à la Toscane. Ces terres à prédominance calcaire comptent des carrières de pierre blanche, matière première de choix pour l'édification de superbes châteaux et tours de garde. La classification officielle de 1909 délimita une zone intermédiaire appelée Thénarès, qui signifie Iter Césaris, chemin de César, rien que ça, autour de l'ancienne voie romaine, qui est à la fois ligne de crête et ligne de partage des eaux, sommant d'une part le bassin de la Dour et d'autre part le bassin de Garonne et de la Baïse. Faut pas oublier que cette classification des Romains sur les voies romaines et les voies appiennes est aussi la même qui a été faite déjà à cette époque autour des appellations comme Saint-Émilion et tous ses satellites de Lussac, de Puiseguin, de Montagne ou tous les satellites de Pomerol avec la lande de Pomerol aussi. Tout ça pour que déjà à l'époque, faire noter qu'à l'époque déjà, malgré la méconnaissance que l'on avait par rapport à maintenant, et donc tous les travaux effectués au niveau de la géologie, de l'apport du travail au sol, de la conduite des cultures, de l'encépagement, de l'élevage bien sûr, et bien pour l'armagnac comme pour le vin, déjà ces appellations limitées, délimitées par la voie appienne, la voie romaine, avaient déjà mis en place les grandes appellations, et ça je pense qu'il fallait le dire. Alors on va parler bien sûr de rencontres et de civilisations, c'est le cas dans cette belle région, et on parle de bois et de vin parce qu'il s'agit de ça. Déjà les Ibères et les Celtes, qui pourtant n'avaient pas les mêmes cultures, amènent le bois de chêne, et les Romains, qui ont créé le premier chai gersois au 3e siècle, Glésia, que l'on connaît maintenant et que l'on visite, amène le vin qui sera conservé en fût de chêne après les premières outres, bien sûr, tannées avec l'écorce de chêne. Déjà, le bois se positionne comme produit stratégique, comme contenant d'abord pour les équipements militaires, c'était le cas à l'époque, et ensuite, bien pour les vins et alcools de qualité. Les vins mis en barrique seront ensuite transportés à travers les océans, par toutes sortes de bateaux pour le commerce, mais aussi pour les vertus qu'on leur donne de vieillissement plus rapide. Les progrès couvriront l'essor des armagnacs sont dus à des scientifiques, bien évidemment, tels Pasteur, qui collaborent avec d'autres savants d'Orient ou d'Occident. Les religieux lettrés, à l'époque, sont nombreux à apporter des avancées importantes dans le domaine. Ce sont les abbés, les moines, on le sait aussi avec Dom Pérignon ou avec bien d'autres régions comme la Bourgogne en général où beaucoup de moines très lettrés ont su faire avancer toutes ces formes de culture. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ce qui a le plus fait avancer toute la culture des vins et de l'alcool, eh bien c'est la passivité constructive entre les chrétiens, les juifs et les islamiques, toutes ces contrées et ces gens qui ensemble ont collaboré étroitement à apporter chacun leur pierre, ça paraît étonnant aujourd'hui, mais c'est vrai, à la construction de ces belles choses. Alors on sait que dans l'armagnac, il y a la main de l'homme, il y a aussi une fonction sociale, bien évidemment. La vigne, elle a permis lentement, certes, la reconnaissance du travail des femmes en milieu rural, ça c'est important. Notamment chez les vignerons de Gascogne, avec de nombreux travaux effectués tout au long de l'année. liage, épamprage, effeuillage, vendange, sarmentage, tout ça bien sûr, ces travaux laborieux, empiriques, toute l'année la vigne demande du travail, était souvent assurée par les femmes, avec une part de silence bien évidemment, comme si ça a été dû depuis des lustres. C'est aussi, ne l'oublions pas, un lieu privilégié de rencontre et d'entraide, puisque la taille, l'enlèvement des bois, la vendange naturellement, c'est l'aboutissement festif du travail de l'année, bien évidemment. Parlons aussi de l'inspiration des artistes, de la création, de la pensée, qui ont souvent été décriées, comme un indice du pacte passé avec Satan, car avec le malin, c'était toujours le cas, la relation dans le cas d'ébriété. Bien sûr, dans cette fonction sociale, n'oublions pas, qui est très importante, toute la main de l'homme, n'oublions pas l'apport, et il y est pour quelque chose, entre la sylviculture et la viticulture. On le disait, rappelons le mariage entre bois et vin, et entre bois et alcool qui doit bonifier et sublimer. Nous parlerons dans la prochaine émission de propriétaires terriens dans l'Armagnac qui aujourd'hui font faire des fûts avec les bois de leur propriété, je vous parlerai d'eux, et surtout de ce que ceci peut amener dans la qualité des alcools qui sont produits et dans l'amour qui est donné, bien sûr, de faire ce métier. C'est l'histoire du chêne et de la vigne, naturellement. Rappelons ce premier chai, je le disais tout à l'heure, à Vin, au 3e siècle, dans une villa gallo-romaine de Séviac, construit par les Romains de la voie appienne et les voies romaines qui délimitent déjà, comme je l'ai dit, les appellations dans les écarts existent toujours à notre époque, malgré les apports, qu'ils soient agronomiques, des apports de variété, de traitement, d'élevage. Eh bien oui, toujours. Toujours des choses qui étaient déjà écrites avec les voies appiennes et qui n'ont pas changé. Ces grandes appellations qui ont bien été délimitées et qui donnent des choses toutes sublimes, mais sublimes différemment. Citons bien sûr Pomerol et la lande de Pomerol, Saint-Émilion et ses satellites, comme je le disais tout à l'heure, et les trois crus de l'Armagnac, les Bas Armagnac, la Ténarèse et le Haut Armagnac. Tout ça déjà délimité par les voies romaines. Alors, maintenant nous allons parler bien sûr, naturellement, de l'âme de ce que nous entendons tous le plus souvent de l'Armagnac, c'est-à-dire de l'âme de la distillation, car l'Armagnac c'est avant tout la transformation d'un vin en alcool, c'est ce qu'on appelle la part du feu, qui est l'âme de la distillation. Voilà, donc je m'appuierai sur Pierre Ferral et Joseph de Pesquidou, des auteurs que nous connaissons, avec un petit côté pas rural, mais quelque chose comme ça, comme Henri Vincenot a pu le faire dans d'autres domaines, pour parler du feu, qui est l'âme de la distillation, donc cette part du feu, en plus de la part de la nature et de la part des hommes. Je cite Pierre Ferral. Au moment de défricher, le paysan ne se donne pas toujours la peine de couper la végétation. Il pratique l'essartage. Il met d'abord le feu, brûle tout le bois du lieu, laboure ensuite cette terre échauffée, sur laquelle seront installées des céréales qui finiront d'épuiser le sol. La vigne apparaît alors comme la seule culture capable de rendre vie à ces terres moribondes, d'abord parce qu'elle part sur la longévité et la reconstruction. De même, rien d'autre que la vigne ne pousse sur la roche volcanique de Santorin, une des îles des Cyclades. Alors, nous avons un déclaré grand Touzucaire, le distillateur, oui, le grand Touzucaire, c'est comme le grand Débisaïre à la course hollandaise, le grand distillateur qui excelle dans le maniement du touzuquette, cette longue tige métallique utilisée pour agencer les bûches dans le foyer de l'alambic. Je vous invite à tracer votre route sur quelques beaux châteaux, on en parlera dans la prochaine émission, dans le Bazar Armagnac, dont je vous donnerai les adresses secrètes. Alors le but est de maintenir une chauffe constante et régulière, et c'est une tâche fondamentale. Rosé Gimette à Cazeneuve fut l'un d'eux, bien sûr, ils sont nombreux, il n'est pas le seul, il y a plein de petits génies actuels qui non seulement une partie de l'année fondent et font des armagnacs, et une partie de l'année vont maintenant distiller des rhums ou prêter leur savoir pour des alcools sophistiqués, des vieux whisky et des vieux rhums dans des pays étrangers. Vous voyez que l'armagnac, le savoir de l'armagnac s'exporte. Les propriétés de l'eau de vie paraissent si étonnantes aux alchimistes du Moyen-Âge qu'ils croient y retrouver quelque chose des attributs du feu qui a servi à le préparer. Le tonnelier, au-delà des impératifs de cintrage, brûle les douelles, les planches servant à la fabrication des fûts, issus des mérins de bois. Ce passage au feu enrichit les saveurs complexes du bois brut et détermine déjà les qualités aromatiques des eaux de vie qui seront élevées dans ce contenant. C'est aussi le cas, encore une fois, des rhums, des brandies, des whisky, tout naturellement. Et ainsi, la flamme qui préside dans les mythes relatifs à la naissance de Dionysios accompagne les phases essentielles de l'élaboration de l'eau de vie. C'est la part de feu avec toujours l'excellent, miraculeux, entre la vigne et le bois, ce rapport excellent et miraculeux. Donc, tout d'abord, le raisin, bien sûr, à l'eau de vie, et en passant par le vin, c'est toute une culture, un procédé de distillation simple chauffe, typique de l'Armagnac, donc tout à fait différent du double chauffe avec le cognac, qui cherche à extraire vite, fort et par tous les moyens. Et ensuite, donc, passage à l'alambic. Alambic, ça vient de l'arabe, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Al-ambic, hambic, ça veut dire vase à distillation. On le trouve aussi chez les Grecs, ça s'appelle hambix, vase au bord rapproché, vous voyez, pour que l'on puisse le fermer une fois mis les alcools dedans. Le process serait un peu long à expliquer. On a été introduit par les Arabes en Occident et dans le sud-ouest de la France au Xe siècle, époque de la coexistence exceptionnelle, je le disais tout à l'heure, des trois cultures religieuses, catholiques, chrétiennes du moins, musulmanes et juives. Des siècles plus tard, les Occidentaux saluent les merveilles extraordinaires des ventes de l'Armagnac et de surtout de ses vertus. Parce que la vente, c'est bien, mais par rapport au cognac, c'est presque rien. Rappelons que la part des anges, l'évaporation du cognac, représente plus que toute la production d'Armagnac. Ça paraît inconcevable, mais c'est vrai. Rappelons surtout les écrits de Vital Dufour, au XIIIe siècle, remis à l'honneur par l'abbé Loubès, grand prieur à Éose, promu cardinal par le pape Clément V, Bertrand de Goth, le pape Clément, qui se rappelle notre bon souvenir avec le château à son nom, bien sûr, pape Clément, fabuleux pensionnaire de la ville de Pessac, avec un livre pour être en forme. Voilà, donc, on parlera naturellement beaucoup plus de tout ça un peu plus tard. Je voulais donc justement vous dire que aucune vinification n'est plus naturelle, en tout cas, que celle des vins destinés à l'alambic. La législation l'exige, le vin issu du pressoir gagne les cuves et ne tolère ni addition de soufre, ni débourbage. Donc ainsi l'eau de vie peut se prévaloir de n'entrer aucunement dans la chimie élaborée dont on accuse quelquefois les œnologues qui, lors d'une mauvaise année, peuvent utiliser des artifices pour corriger les défauts du vin. Le respect de la législation implique donc d'opérer une vinification saine et rapide afin d'éviter toute oxydation, toute contamination bactérienne. Bon, bien sûr, naturellement, tout ça n'existe plus. Tout le monde le sait. Tous les pompages font à l'abri de l'air, les techniques d'inertage, de neige carbonique, d'azote, éléments donc de conservation, doivent être privilégiés des vendanges jusqu'à la distillation. Je ne résiste pas, donc deux, trois dictons quand même pour se mettre en forme. Le temps, la vigne et le vin. Si les grenouilles chantent en février, des tonneaux, tu peux faire une volière. Alors ça, c'est bien, mais c'est moins bien. Bourgeons de mars remplissent les barils, bourgeons d'avril remplissent les barriques, bourgeons de mai remplissent le chai. Enfin, une troisième et dernière. Au mois d'avril, la lune rousse du sarment crame les pousses. À mûrir tout ça, comme l'Armagnac. À bientôt sur nos ondes. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.